Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 15 janvier. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour Manu, bonjour à tous.
Et bonjour Manu.
Et bonjour.
Alors normalement nous devrions avoir un invité, en tout cas c'est ce qu'on a annoncé sur le site internet. Pour l'instant l'invité n'est pas présent, il s'agit d'Henri Talva. C'est l'ancien adjoint à la culture qui maintenant est le président du Cinémed. Il venait nous parler du programme du Ciné-Club qui a déjà commencé avec pour thème la reconstitution. Eh bien, on est impatients de le recevoir, mais avant tout, on va continuer l'émission. On a un petit sommaire quand même, on avait prévu des petites choses. Toi, Marine, c'était quoi ?
Moi, je vais très vite fait vous parler de Lovelace de Rob Epstein, que j'ai vu avec Manu.
Exactement. Et moi, Manu. Je vais donc vous parler des sorcières de Zugarramurdi, le nouveau film de Alex de la Iglesia.
Qui est sorti la semaine dernière, et puis un film qui sort aujourd'hui, c'est le film des frères Larieux. L'amour est un crime l'amour est un crime parfait. Et il se trouve que j'ai rencontré les frères Larieux, donc on les écoutera, alors un peu moins de deux minutes, ce sera la semaine prochaine qu'on les écoutera plus largement, puisqu'on voulait laisser plus de place à Henri Talva.
Cinérama.
Moi, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie.
Sur Divergence FM.
Alors après l'ambitieux Balada attristé et le plutôt raté Un jour de chance, qui est sorti l'an dernier dans une totale indifférence, donc le trublion espagnol Alex de la Iglesia revient à ses premiers amours, là, c'est-à-dire la comédie horrifique, genre qu'il a fait connaître auprès du public avec Action Mutante et Le Jour de la Bête. Voilà, donc les sorcières de Zugarramurdi débutent en fanfare dans un esprit assez festif et décalé, avec un braquage pour le moins singulier. Des cambrioleurs du dimanche déguisés alors en Jésus-Christ, il y a Bob l'éponge et en soldat vert s'emparent des bijoux d'un magasin d'or à Madrid et ils prennent la fuite dans un chaos total. Pour corser l'ambiance, le Christ, enfin José en fait, le personnage déguisé, a emmené son fils dans l'aventure et lui a même confié deux flingues. Pourquoi ? Parce que c'est son jour de garde et il ne pouvait pas le laisser à la maison. Donc énergique et brillant, ce prologue est vraiment un régal. La mise en scène est alerte, les dialogues hilarants et d'emblée, les personnages sont attachants. Bon, on perd juste Bob l'éponge en route qui se fait dézinguer à coups de mitraillette. Et donc nos lascars vont prendre un taxi en otage et les voilà partis pour passer la frontière et se réfugier en France. Le chauffeur qui en a assez d'ailleurs de sa femme décide de faire partie de l'aventure. Par pure mauvaise foi ou esprit un peu d'espièglerie, De la Iglesia prend un malin plaisir à jouer la carte de la misogynie. Pour un peu, on penserait à certains films de Blier, comme Calmos. Ce discours assez rétrograde n'est pas à prendre très au sérieux, bien qu'une partie de la critique française ne s'est pas privée de souligner cet aspect. Dommage, car en y regardant de plus près, les personnages masculins sont particulièrement immatures, irresponsables, voire carrément idiots. Bon, revenons à nos moutons, plutôt à nos sorcières. Donc, pour passer la frontière, la joyeuse bande doit passer par un village qui s'appelle donc Zugarramurdi. Et à partir de là, donc, les ennuis vont véritablement commencer.
Un homme tout nu, il a une barbe, un soldat vert, un petit garçon. C'est l'élu.
Tout le monde par terre, c'est un hold-up!
T'as ramené le petit? Mais t'es fou!
Je l'ai tous les mardis et un week-end sur deux, t'as compris?
Où la portière, connard?
Tiens, c'est ta mère.
Maman, ça va, mon chéri?
J'ai pas eu mon goûter et j'ai pas encore fait mes devoirs.
Accélère!
Comment il s'appelle?
Quoi donc?
Eh ben, le village.
Zugarramurdi.
Là où il y a des sorcières.
Putain, on a intérêt à dégager d'ici.
Et t'aimes jouer à quoi?
J'adore jouer au docteur.
Et toi?
À la PSP.
Vous n'auriez pas vu un homme d'aspect vulgaire, pas très beau, avec un enfant?
C'est votre mari, non?
Oui, comment vous le savez?
Parce que je suis une sorcière.
Pèse comme une chienne, ment comme tu respires, trompe les hommes, c'est de son âge, non?
Moi, les sorcières, elles me font pas peur. Par contre, ce qui me fait peur, moi, c'est les fils de pute.
Ça, c'est une bonne voix, d'accord.
Voilà. Donc sans être un chef-d'œuvre, hein, Les Sorcières est un divertissement ludique, drôle et puis gentiment subversif, excellemment interprété par des comédiens, hein, qui sont des habitués du cinéaste. Hein. De la Iglesia livre une sorte de Nuit en Enfer, le film de Rodriguez, là, mais les sorcières qui remplacent donc les vampires. Hein. Il s'est instauré une ambiance étrange et même inquiétante qui n'est pas sans rappeler l'univers d'un Polanski, en évançant la carte de la parodie pure, puisque ce n'est pas vraiment, vraiment une parodie. Hein. De la Iglesia respecte le genre, jongle habilement avec les codes et surtout soigne sa mise en scène qui est dynamisée par un montage nerveux et une utilisation assez pertinente des décors. Bon, et là, sa dernière demi-heure, hein, qui s'annonçait comme l'apothéose d'un délire trash et sanglant, se perd dans un grand guignol confus et parfois vulgaire. Il y a une sorcière géante avec des seins énormes et un cul grassouillé. Que... Non, mais c'est vrai. Hein, ces passages ne sont pas vraiment du meilleur goût. Hein. Et du coup, bon, le film perd un peu en rythme. Hein. Bon, c'est pas très grave, on pardonnera à Iglesia de s'être un peu perdu en fin de parcours. Le film reste quand même un bon divertissement et... Et puis se distingue quand même de côté liste des films de genre récents. Fin.
Alors avant que tu parles de ce gros postérieur, j'avais envie de te demander visuellement, ça a l'air quand même assez intéressant, chargé, coloré.
C'est assez brillant, hein. C'est assez nerveux comme souvent les films de l'Iglesia. Il y a un côté aussi, la mise en scène, elle est à la fois énergique et en même temps très foutraque. Moi j'aime bien toute la qualité de la lumière et le décor du village qui est très très, très, très réussi. C'est vrai, pour un peu, ça pourrait être vraiment inquiétant.
Mais Balade attristée, en fait, souffrait du même problème, en fait. Il se perdait complètement en cours de route. C'était un mauvais goût absolu. Mmh. C'était beaucoup trop chargé sur le plan visuel. Enfin,
c'est un peu récurrent de la Iglesia. Et il me semble que le film qui était peut-être le plus tenu, le plus réussi, c'est Le Crime Farpé, qui était vraiment une comédie ultra rythmée, ultra dynamique. Et pourtant, là, il durait bien 2 heures. Mais c'est peut-être aussi un problème d'écriture, de scénario. Quand on regarde Les Sorcières, finalement, le film, il est vachement calqué sur Une Nuit en Enfer. La trame, c'est la même. Hein. C'est des braqueurs qui partent comme ça pour passer une frontière. C'est plus la frontière mexicaine, mais c'est passer la France, d'ailleurs. Quelle drôle d'idée. Mmh. Et puis, il se passe exactement la même chose. À la frontière, ils tombent donc sur une grande demeure qui est habitée par des sorcières. Et dans Une Nuit en Enfer, c'est un pub avec des vampires. Mais la trame est exactement la même.
Merci Manu, donc ça s'est projeté seulement dans les Gaumont ou
non, Diagonale aussi. Diagonale oui, c'est un film d'arrêt-essai.
Estampillé. On continue.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Pas tout à fait arrêt-essai, mais presque quand même. Les frères Larrieux, donc après le dernier jour du monde, sortent L'amour est un crime parfait. Donc ça sort aujourd'hui, c'est adapté d'un roman de Philippe Jean. Alors, eh bien, ça se passe dans la montagne. Ça a été écrit donc par quelqu'un qui vit en Suisse. L'histoire se passe dans la montagne. Il se trouve que les frères Larrieux sont nés du côté de Tarbes, me semble-t-il, en tout cas, ce sont des enfants des Pyrénées et que dans tous leurs films, on voit la montagne. Et même dans leurs précédents films, il y a toujours un moment où ça passe par un col. Voilà. Et là, ils montrent la montagne dans les grandes largeurs avec en plus l'hiver, donc beaucoup de blanc partout. Il se trouve que l'hiver dernier, il y avait beaucoup de neige, donc ça les a très intéressés parce que ça file la métaphore avec le personnage principal joué par Mathieu Amalric qui est un professeur de littérature. Il est avec de jeunes étudiantes qu'il charme. Et il se trouve qu'il y a une de ces étudiantes qui disparaît. Et lui, il a un blanc. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. On écoute les frères Larrieux qui étaient à Montpellier. C'était vendredi pour une avant-première. On écoute un petit extrait quand même de cette interview. Et on écoutera de plus larges extraits la semaine prochaine.
Vous êtes face à un homme mûr, physiquement encore au point, et qui enseigne l'art d'écrire à des jeunes femmes très attirantes. Parfois, il ramènerait chez lui l'une d'entre elles afin de lui enseigner l'art d'aimer. Nadia. Lydia. Emma.
Ce qui nous plaisait d'ailleurs dans le personnage de Marc, c'est qu'il circule entre 3 univers très cloisonnés. Effectivement, il a ses histoires avec ses étudiantes, mais qui sont très dangereux du point de vue de son métier, de la faculté, de sa hiérarchie. Il y a les rapports avec sa sœur, qui sont quasiment aussi des rapports mari-épouse. Au début, ça commence comme ça, d'ailleurs, on ne sait pas trop. La sœur est évoquée, mais ils vivent plutôt comme un couple retiré dans la montagne. Et ça, on aimait bien, c'est qu'au bout d'un moment, le trouble vienne, qu'on se dise, tiens, ce couple hétérosexuel, quasi mariés femmes, mais ils sont très étranges et que peut-être qu'un vieux couple, enfin un couple de longue date, est quelque chose de peut-être beaucoup plus étrange et intrigant qu'un rapport particulier, que ce soit l'inceste ou amant-maîtresse ou voilà. Et donc ce Marc circule comme ça, en cloisonnant les choses, jusqu'à ce qu'il tombe un peu plus amoureux et que l'amour ouvre des brèches dangereuses pour lui dans son vieux système d'organisation. Et comme on est toujours avec lui, on découvre les choses petit à petit, on est toujours avec lui, et il a des blancs sur ce qu'il fait, sur ce qu'il a fait. Donc le spectateur, a priori, si ça fonctionne, s'identifie à quelqu'un qui a des blancs. Donc... on rentre à la fois en empathie avec lui, mais avec des manques sur ce qui s'est passé et ce qui se passe, puisqu'on est avec lui.
Qu'est-ce qui se passe, Marc ?
Rien.
Vous êtes un charmeur, Marc, un donjon. Vous les attirez comme des mouches, pas vrai ?
Alors, il y a Mathieu Amalric qui joue le personnage principal, donc ce personnage de Marc, qui on a entendu Podalides, qui est vraiment excellent, qui avait un rôle plutôt antipathique dans le roman, mais qui l'a été un peu amélioré par les frères Larieux, qui ne voulaient pas lui donner un sale rôle. On voit Karine Viard aussi, qui joue la sœur donc, de Amalric, dans une relation un peu incestueuse. Alors, une Karine Viard qui est un peu fatale comme ça, je trouve que c'est elle qui s'en sort le moins bien parmi toutes les actrices, parce qu'on retrouve aussi Maïwenn et Sarah Forestier. Il paraît que le tournage n'était pas triste avec ces trois filles qui étaient un peu divas sur les bords.
Voilà. Un cliché.
Ah ben, c'est pas un cliché, moi je le tiens des réalisateurs. Voilà, c'était compliqué, mais elles ont jamais joué ensemble. Mais n'empêche que voilà, elles avaient des envies particulières et puis des jours où elles voulaient être là, pas là. Enfin voilà, donc ça a compliqué le tournage. Voilà, en plus qui se passait dans des conditions pas évidentes, puisque c'était la montagne, ainsi de suite. L'amour est un crime parfait sort aujourd'hui sur les écrans et à peu près dans tous les cinémas de Montpellier. On n'est toujours pas avec Henri Talva, mais heureusement Marine.
Bah on va parler Marine de Gorge Profonde à la place.
Qui êtes-vous?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Et on enchaîne tout de suite du coup avec Lovelace de Rob Epstein. Nous sommes dans les années 60. Les femmes apprennent encore à être de parfaites épouses au foyer. L'industrie du X reste cantonnée à un public restreint. Et Linda, jeune fille timide qui n'a pas inventé l'eau chaude, rencontre son futur mari Chuck. Petit truand et vague proxénète, ce dernier décide un jour de la mettre à contribution pour payer ses dettes en lui faisant tourner un film porno basé sur ses performances buccales. Ce film s'appellera Gorge Profonde, engrangera 600 millions de dollars et il y aura définitivement un avant et un après dans l'histoire du porno. Linda, devenue Linda Lovelace, accède au statut d'icône et devient la première actrice de film X à être ainsi starifiée. Le film, quant à lui, aura un vaste impact sur le rapport du public au porno, certains allant même jusqu'à lui donner une certaine importance dans l'évolution du féminisme et de la société. Si le fait de donner le rôle principal à Amanda Seyfried était plutôt une bonne idée, la jeune actrice semble presque au final faire figure d'intrus au milieu de cette mise en scène grossière qui se frotte au biopic sans aucun effort d'inventivité. Élaborée en deux parties, la première retranscrivant grossièrement ce que le public connaît de la vie de Lovelace, la seconde entendant démonter tout cela afin de donner la vraie version de l'histoire, le film perd son propos, si tant est qu'il en eut un, au profit d'un réquisitoire sans finesse à charge contre le méchant du film, le mari de Linda. La construction s'avère très maladroite et l'ensemble digne d'un passable téléfilm puisqu'on nous revient de façon schématique sur chacune des scènes initiales pour en montrer la vraie version. La vraie version qui est par ailleurs celle de Linda Lovelace et dont on ne connaîtra jamais en fait la part de véracité. Au final, la jeune femme apparaît comme une victime dont l'intégrité ne sera à aucun moment remise en cause et l'industrie du X de l'époque ne sera que peu dépeinte alors qu'on aurait aimé un portrait nuancé pour l'une et une peinture au vitriol de l'autre. Si un effort notable a été fait pour soigner l'image et lui donner une patine qui va sans doute émouvoir les nostalgiques du porno 70 sur pellicule, la recherche esthétique n'ira pas plus loin. On notera tout de même dans ce film anecdotique qui n'est pas pour autant un naufrage, la présence au milieu de quelques acteurs de série venus cachetonner, d'une Sharon Stone assez méconnaissable et surtout d'un James Franco, Henri de Geffner, qui illumine le film. Deux minutes.
Juste voilà. Un sourire et ça y est.
Non, voilà, c'est un film qui manque un peu de profondeur, j'ai envie de dire.
Vaut mieux revoir Gorge Profonde. Personnellement.
Ah, tu fais partie de ces nostalgies.
Voilà, du porno 70 sur pellicule.
Bien sûr. D'ailleurs, Gorge Profonde, si vous avez vu le King Kong de Guy Hermel, celui des années 70, tout l'équipage regarde Gorge Profonde, sauf. oui, c'est vrai. Sauf Jessica Lange qui est sur le pont à un moment donné. Bah oui, quand même.
C'est un ange.
L'honneur est sauf. Voilà, j'avais rien à dire de plus sur ce film.
C'est une bonne anecdote.
Oui, voilà, c'est visible malgré tout au diagonale en version originale.
Un film d'art et essai, donc c'est ça.
Totalement.
Si on veut.
Merci Marine, c'était Loveless. Donc, on va faire sans l'invité et on va ouvrir cette thématique, la reconstitution, à propos du Ciné-Club Jean Vigo.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Et c'est donc une saison qui commence. Non, je peux pas l'imiter en plus. Donc, non, mais par contre, on peut en parler. Ça, demain, il y aura la projection de Andrei Roublev, demain 16 janvier. Donc, ça se passe au centre Rabelais. Hein, c'est à 20h, le ciné-club. L'avantage, c'est que ce sont des films qui ont compté dans l'histoire du cinéma et qu'après, on peut en discuter. Hein, voilà, Marine, ça te fait sourire parce que toi, tu as participé à nombreuses séances de ciné-club.
Chacune.
Oui, d'accord. Andrei Roublev, donc ce sera le long métrage de Andrei Tarkovski. C'est un film historique. Qui l'a vu ici?
Pas moi.
J'ai été forcé par mes profs.
Et donc, il a été tourné en 66. Il est seulement sorti en 69. C'est sur un scénario de Tarkovski et de Konchalovski. Voilà, qui est devenu ensuite réalisateur. Le film en fait est découpé en un prologue, 8 tableaux et un épilogue. Il montre la vie dans la Russie du 15e siècle entre donc 1400 et 1423 à travers des yeux d'Andrei Roublev, un peintre itinérant d'icônes. Et alors, dans ses mémoires, Tarkovski écrit quelque chose d'assez étrange. Il dit « Je me suis souvenu de la façon dont j'avais égaré le manuscrit du scénario de Roublev alors que je n'avais aucun double. Je l'avais laissé dans un taxi à l'angle de la rue Gorki, merci pour les précisions, et le taxi était parti. De désespoir, j'étais allé me saouler et au bout d'une heure, je suis sorti. Deux heures après, alors que je redescendais la rue, exactement au même endroit, là où j'étais descendu de la voiture, un taxi a ralenti et le chauffeur m'a tendu mon manuscrit par la fenêtre. » C'était un miracle, dit-il. Voilà. Bon, c'est avéré, hein. C'est lui qui l'écrit, hein, Tarkovski, dans ses mémoires. Alors, il se trouve que le film a été plus ou moins censuré, hein, parce que c'était quand même un pays soviétique. Il sera montré au Festival de Cannes en 69, le dernier jour des projections, et il sera amputé de 20 minutes par les autorités donc, soviétiques, et il sera projeté à 4h du matin, donc autant dire qu'il n'y avait pas grand monde. Déjà que ça piaille un peu pour les projections à 9h, alors à 4h du matin pour se taper un film de 3h, si c'est compliqué quand même à Cannes. Et malgré tout, il remportera le prix Fipreski, donc qui est celui qui est remis par les journalistes critiques de cinéma. Il a été interdit par les autorités soviétiques jusqu'en décembre 71. À noter que c'est la version, je pense. Alors c'est ça que j'aurais bien aimé demander à Henri Talva, c'est savoir si c'est la version censurée ou pas censurée qu'on peut voir d'Andrei Roublev. Parce qu'il y a eu des petites coupes, me semble-t-il. On n'a pas d'extrait, parce que voilà, c'est du russe, total. Et on va passer à un autre film, ce sera le jeudi 6 février, Buffalo Bill et les Indiens. Qui a vu ce film de Robert Altman? Toi, Manu?
Oh, je l'ai vu il y a longtemps. Hein.
Donc c'est une farce.
Hein. Oui, voilà, c'est plutôt une comédie, c'est un western, pas vraiment parodique, hein, mais plutôt
mais presque,
un film sur la... C'est une critique un peu des États-Unis. Enfin, c'est le western typique des années 70, mais plutôt version...
C'est une espèce d'anti-Ford, c'est voilà. Ça. Hein,
mais dans le genre, je préfère un autre film d'Altman qui s'appelle John McCab et qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir et qui, à mon avis, est plus réussi.
En tout cas, là, c'est un film avec Paul Newman, Geraldine Chaplin, Burt Lancaster et puis Harvey Keitel qui joue le neveu de Buffalo Bill. Donc c'est en 85 Buffalo Bill qui monte un spectacle rodéo sur le Far West en embauchant le vrai Sitting Bull qui est un grand chef indien. Mais rien ne se passe comme prévu parce que Sitting Bull demande une entrevue avec le président américain. Le président américain les conduit. Donc ça va contrarier Buffalo Bill. Buffalo Bill, enfin qui est pas forcément un très grand tireur, qui est plutôt porté sur la bouteille. Enfin voilà, Altman écorche un peu le mythe américain, le Far West et donne une plus large place quand même aux Indiens. Voilà, c'est un peu le but de la manœuvre.
Propos, oui. C'est un peu le contraire du film. Enfin, il y a eu plusieurs versions de Buffalo Bill. Hein. Donc il y en a notamment une connue de Cecil B. 2000 et je pense qu'il prend carrément le contre-pied du film de 2000 qui présentait Buffalo Bill comme le représentant des valeurs américaines et avec un discours en plus très très anti-indien pour le coup.
Il a été ours d'or du meilleur film à la Berlinale de Berlin, enfin forcément, en 76. très étonnant. Enfin bon, on écoute un extrait.
Au cours d'un service religieux à Deadwood City, j'ai parlé à un jeune homme qui est devenu plus tard un ami. Il s'appelait William F. Cody. J'ai été tellement impressionné par son adresse de tireur et par le nombre de bisons qu'il avait abattus qu'un jour je l'ai surnommé Buffalo Bill.
Bonjour Annie. Oh tiens, maître, regarde-moi ça.
Alors, ça va mieux ce bras ?
C'est extraordinaire ce qu'elle arrive à faire de la main gauche. Vas-y, montre-lui. Regarde ça.
Magnifique. Parfait. Tu es bien notre Annie nationale.
Et c'est arrivé. En quelques mois, mes nouvelles sont publiées. C'est le gros succès. Et le jeune homme vient me trouver. Il est terrifié par la légende que j'ai créée. Mais cette soudaine célébrité m'enthousiasme. Je le regarde en face et je lui dis une phrase. Rien qu'une seule phrase. Je lui dis, Bill, j'ai toujours conseillé aux jeunes dont l'ambition est de brûler les planches de ne pas oublier qui leur a donné les allumettes.
Voilà, donc un extrait de Buffalo Bill et les Indiens, film de Robert Altman qui sera projeté le jeudi 6 février lors du ciné-club Jean Vigo. On va passer à un autre film, celui du jeudi 13 février, Vincent, François, Paul et les autres, film de Claude Sautet, sorti en 1974. Ouais. Donc là aussi qui réunit énormément d'acteurs connus. Ça devait être plutôt plaisant de tourner avec ces gens-là. Serge Reggiani, Yves Montand, Michel Piccoli. Il y avait aussi Depardieu, ça c'est pour les hommes. Et puis pour les femmes, il y avait Stéphane Audran, Ludmila Michael, Catherine Allégret et Myriam Boyer. Voilà, donc film emblématique quand même des années 70, du style Sautet, film choral qui réunit des personnages qui sont connus très tôt, des amis d'enfance qui au bout d'un moment avaient plein d'idéaux, la vie est passée par là, et puis eh bien, tout a changé. On écoute un extrait.
C'est François qui a raison. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont qu'à s'arranger. Ou pour en avoir, ou pour s'en passer. Mais pas pour emmerder les autres, qu'est-ce que ça veut dire ? S'adapter, ça signifie quoi ? Ça signifie vivre avec son temps, savoir bouger avec la société. Comme François. Naturellement, une seule devise. Pour changer de vie, changer la vie. Hein ? Ah, autrefois, c'était autre chose. Fallait pas rire avec le progrès social, sinon ils se fâchaient. Justement, c'était la grande époque du dispensaire. Créons et multiplions les dispensaires de banlieue. Nous devons soigner les pauvres gratuitement.
La science n'est pas à vendre.
Nous sommes au service du monde, etc., etc. Voilà ce qu'on entendait à Maison Alfort dans les années 50. Puis alors, je sais pas ce qui s'est passé, là, tout d'un coup, coup de baguette. Plus de dispensaire, dis donc. Et à la place, une clinique toute blanche à l'étoile. Nous sommes au service du monde, mais du beau monde. C'est ça l'évolution urbaine, mon petit garçon. Les autres, ils n'ont qu'à s'installer plus loin. C'est ça, s'adapter, t'as compris ?
Non, mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons imbéciles jusqu'à la fin des temps ! Écoutez, un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer ! Des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi ! Merde ! Et quand on s'est parti, celui-là qui va rester avec sa danseuse, quel genre mécanique ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ?
Écoute, François, écoute.
Ta gueule, toi ! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, hein, vos dimanches, petit chico à la con! Merde!
Je vous emmerde tous avec votre dimanche et votre gigot à la con. C'est une phrase culte, sortie donc par Piccoli, hein, ça devait bien sortir. Film plutôt culte, on va le dire comme ça, non ? Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sautet.
Oh bah c'est un de ses titres les plus connus, je pense, avec Les choses de la vie, oui. et puis Max et les ferrailleurs.
Et donc ce sera le 6... non, ça c'est le 13 février, donc toujours lors de ce ciné-club. On va terminer avec février, parce que ça, on en aurait parlé si Henri Talva avait été là. Jeudi 20 février, c'est octobre...
Octobre en février, voilà.
de Eisenstein, le titre original, c'était quand même Octobre, 10 jours qui ébranlèrent le monde. Voilà, que dire sur Eisenstein, qui s'est servi de ce film pour mettre en pratique toute sa théorie sur le montage, l'utilisation du montage pour les métaphores, comment montrer quelqu'un...
C'est ce qu'on se cogne systématiquement quand on est en fac de ciné tous les ans, on y a droit.
C'est un peu normal en même temps.
Alors, la petite histoire, il y a quand même eu 11 000 figurants, c'était pas rien, 6 mois de tournage alors qu'il en aurait fallu peut-être le double. Mais bon, il fallait se presser parce que c'était pour commémorer le 10e anniversaire de la révolution bolchevique. Eisenstein ne voulait aucun acteur professionnel, donc il a dû un peu écumer les bars et les asiles pour trouver des têtes qui correspondent à ce qu'il voulait. Donc, bah oui, c'est comme ça. Et donc, le matériel militaire qu'on voit dans le film a été prêté par l'armée rouge, ça c'est normal. Et puis, certains quartiers de Leningrad, donc Saint-Pétersbourg, furent plongés dans le noir pour permettre à l'équipe de tournage d'avoir une tension électrique suffisante pour les projecteurs, donc pour faire les tournages de nuit. Alors, il faut savoir aussi que Trotsky a été coupé au montage. Normal, puisque Staline ne pouvait pas le blairer. Et puis voilà, qu'il y a une autre version aussi, pas tournée par Eisenstein. Donc, ça aurait pu être intéressant d'ailleurs de la diffuser lors de ce ciné-club. On n'a pas d'extrait pour Octobre Eisenstein. Et je ne sais pas quelle version sera projetée là aussi, parce qu'il y a une version avec une musique de Shostakovich qui a été remontée dans les années 60. Voilà, je ne sais pas. Henri Talva, si tu nous entends, tu peux toujours rappeler. Et puis, le 20 février, ce sera Good Morning Babylonia, film de Paolo et Vittorio Taviani. L'histoire de deux frères qui vont à Hollywood pour le tournage de Intolérance de Griffith. Voilà, ils quittent l'Italie parce qu'ils sont pauvres et ils espèrent trouver mieux là-bas dans l'Ouest américain. C'est un peu ça.
Je pense. Je ne peux pas beaucoup t'aider. Je me souviens qu'il y avait un éléphant dans le film et sur l'affiche notamment.
Moi aussi, c'est voilà. Tout ce dont je me souviens. C'est
on
pas
est bien avancé.
Eh oui. Cinérama va bientôt s'achever, mais avant, Marine, on va parler d'un film que tu as beaucoup aimé, contrairement à Loveless que tu as plutôt boudé.
Oui, voilà, juste deux mots. Je pense qu'il ne restera pas encore très longtemps en salle, mais si vous avez l'occasion, je vous recommande plutôt, à défaut de Loveless, deux automnes, trois hivers, si je ne me trompe pas, ou c'est peut-être l'inverse, je ne sais pas. C'est un film français qui est vraiment assez charmant, c'est avec Vincent Macaigne dedans, qui est une des révélations françaises de cette année, qui est joué dans La fille du 14 juillet, qui a un physique très particulier, c'est un peu le mec qui a remis à la mode la calvitie avec les cheveux longs en fait, et le t-shirt dégueulasse qui va avec, et la barbe de 3 jours, tout ça en même temps, mais c'est un très bon acteur, et le film est très parisien, ça peut avoir un côté assez agaçant, mais ça raconte une histoire d'amour de façon assez inspirée, avec quand même pas mal de tics de mise en scène hérité de la nouvelle vague, hein, avec les acteurs qui parlent face caméra, qui se mettent à chanter parfois. Mais c'est léger, c'est rafraîchissant, et enfin voilà, c'est le genre de film qu'on aimerait voir un peu plus souvent parce que ça sort de l'ordinaire.
Merci Marguerite.
Cinérama.
Ça ne gêne pas si je prends quelques petites notes.
J'ai mis un D à ton prénom et je Marie trouve que ça ne va pas du tout en fait. On termine avec l'agenda, avec ce soir à l'Utopia, 20h, cinéma communisto. C'est suivi d'une rencontre avec la réalisatrice Mila Touralgic. Ça, c'est pas facile à dire par contre, hein, j'ai des excuses. Ensuite, au Diagonale, demain à 19h55, Des étoiles de Diana Guy, je suppose que ça se dit comme ça. On le saura de toute façon demain puisqu'on rencontrera la réalisatrice. À l'Utopia, la même soirée, il y aura des courts-métrages qui seront projetés, des courts-métrages qui viennent de la région. Ce sera donc à 20h. Et puis le ciné-club Jean Vigo, on en a largement parlé, ce sera donc André Roublev à 20h, salle Rabelais. Ne pas oublier la semaine du cinéma suisse qui commence du 18 au 21 janvier, ce sera au Centre Rabelais. Et là, ce sera Jean-Pierre Mocky qui sera l'invité de cette édition, avec deux de ses films qui seront présentés, Un drôle de paroissien et Solo. Tout le programme, c'est sur crarefilms.com, c'est sur Internet. Et puis le lundi 20 janvier, c'est sur le ciné-campus à l'Utopia avec le film Caramel, un film libanais de Nadine Labaki, excellent film. Et puis mardi 21 janvier à 18h au Diagonale, l'avant-première des Grandes Ondes, les Grandes Ondes entre parenthèses à l'Ouest de Lionel Bert, et ça donc bien, ce sera dans le cadre du cinéma suisse qui s'achève donc le 21.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Nous avons pu faire sans invité, mais c'est quand même dommage. Voilà.
Une émission sous haute tension.
Et la semaine prochaine, interview donc des frères Larieux et puis peut-être une invitée.
Oui, pas moi,
et
qui
Marine,
sera partie.
Marine.
Néanmoins, l'émission 24 notes secondes à suivre sera consacrée à Donald Sutherland.
Et on remercie Simon, aujourd'hui à la technique.
Il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.